1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons nous appuyer sur l'intuition pour essayer de réduire les inhibitions de ceux qui sont peu enclins à utiliser des outils mathématiques. L'exercice pourrait éventuellement paraître superflu à ceux qui, au contraire, sont rodés à ce mode d'expression. Mais nous verrons qu'il est très important de comprendre la signification des équations. Et pour nous donner une interprétation intuitive de ce numérateur de l'équation du modèle gravitaire qui prend le produit des masses de deux lieux échangeant des flux, eh bien, considérons un individu qui habite une ville I et qui souhaite échanger avec des individus localisés dans une autre ville J de population différente. Cet individu I peut échanger avec chacun des individus de la ville J. Il va donc avoir un nombre d'interactions possibles qui est de l'ordre de MJ. Pour un deuxième individu de cette même ville I, il va y avoir également MJ interactions possibles. Pour un troisième individu autant, et donc nous voyons bien que l'ensemble des interactions possibles entre les habitants de la ville I et de la ville J, c'est MI fois le nombre MJ des individus de J. Donc, ce potentiel global d'interaction, cette potentialité, cette possibilité, cette éventuellement probabilité d'échanger, on comprend qu'elle soit non pas proportionnelle à l'addition des quantités contenues dans le lieu I ou dans le lieu J, mais bien proportionnelle au produit des masses à cause de cette probabilité conditionnelle de pouvoir échanger. Nous observons également que, d'après cette formule, les échanges doivent être tels que représentés par le modèle, sont symétriques entre deux lieux I et J, puisque nous avons exactement la même expression mathématique pour représenter le flux qui va de I à J ou le flux qui va de J à I. Nous savons que, dans les observations des tableaux d'échange, ce n'est en général pas le cas, même s'il y a toujours un flux et un contre-flux dont l'amplitude est sensiblement équivalente, disait Ravenstein, eh bien, nous allons trouver dans les estimations que nous ferons avec le modèle des flux qui sont complètement égaux entre celui qui va de I à J et celui qui va de J à I pour un problème donné. Donc, les écarts nous apporteront une information qu'il nous faudra par la suite analyser. Voyons maintenant comment on peut comprendre intuitivement pourquoi nous avons besoin dans cette équation du paramètre A qui représente le franchissement de la distance et pourquoi ce paramètre, contrairement à ce qui se passe dans le modèle de la gravitation universelle où il est toujours le carré de la distance, pourquoi ce paramètre peut prendre des valeurs variables, certes commune à tout un espace considéré, à un même tableau d'échange, on va estimer une valeur du paramètre A qui sera la même pour tous les couples de lieux, mais ce paramètre A va pouvoir prendre des valeurs différentes selon certaines modalités des échanges. Le premier facteur de variation possible, c'est le motif du déplacement. Et on constate que, bien évidemment, des déplacements qui mettent en jeu, par exemple, des enfants qu'il faut conduire à l'école ou des enfants qui se rendent à l'école à pied vont ces déplacements vont cesser beaucoup plus vite à une distance proche, de l'ordre de 500 mètres, 1 km maximum, alors que des déplacements qui correspondraient à des déplacements d'achat vont pouvoir se situer à des distances plus considérables et encore plus s'il s'agit de déplacements domicile-travail ou de déplacements de loisirs. Donc nous avons une portée des échanges, une distance possible qui augmente d'un type d'échange à l'autre. Et en revanche, le paramètre A qui les traduit dans l'équation au dénominateur va lui prendre des valeurs élevées pour des échanges très sensibles à la distance, comme les déplacements scolaires, et des valeurs moins fortes pour des échanges moins sensibles à la distance, comme les déplacements de loisirs. Un second motif de variation, un second facteur de variation des valeurs du paramètre A, c'est bien entendu le mode de transport utilisé, puisque la vitesse de déplacement permet d'accroître les distances franchies plus facilement. Donc, sans étonnement, nous avons des interactions qui, à une distance donnée, vont apparaître plus faibles si on se déplace à pied et plus fortes si on se déplace en voiture pour une même distance kilométrique donnée, par exemple. Et les valeurs du paramètre A vont être plus élevées pour estimer un tableau d'échange qui se font à pied que pour un tableau d'échange qui se font avec l'automobile. Nous avons également une intervention des difficultés de franchissement de l'espace géographique qui n'est pas toujours homogène ou homogénéisé par la construction des réseaux de transport, par exemple. Et donc, toutes choses égales par ailleurs en termes de propension à la mobilité, de nécessité de mobilité ou de masse en présence, dans un milieu rugueux comme un milieu montagnard, eh bien, les interactions seront plus difficiles, moins fréquentes, moins intenses que dans un milieu de plaine. Et les valeurs du paramètre A varieront en conséquence plus élevées pour le milieu montagnard que pour le milieu de plaine. Donc en résumé, ce paramètre A qui représente la difficulté de franchissement de la distance pour tout l'espace donné, c'est une valeur que nous estimons avec l'équation du modèle gravitaire. Ce n'est pas une valeur que l'on peut directement observer. Qu'elle n'est pas donnée par les informations qui sont présentes dans l'espace géographique, elle est estimée par le modèle. Et cette valeur, donc obtenue par ajustement entre les flux qu'on va estimer grâce au modèle et les flux observés, eh bien, elle va nous permettre, par différence, d'observer certains facteurs locaux qui pénalisent également le franchissement de la distance, mais qui n'interviennent pas dans tout l'espace, comme une barrière, une frontière. Nous observerons des cas possibles de ces résidus par rapport à l'ajustement avec un modèle gravitaire. Le paramètre K, lui, est d'une interprétation plus facile et moins intéressante. Il met simplement en rapport les ordres de grandeur dans lesquels sont mesurées les masses et dans lesquels sont mesurées les distances, avec des unités qui en général sont différentes. Et cet ajustement varie évidemment d'un milieu à l'autre. Donc vous voyez, cette équation qui a priori pourrait sembler très rébarbative à des non-mathématiciens, nous l'avons complètement interprétée, expliquée, l'interaction entre deux lieux I et J est proportionnelle avec un facteur K au produit des masses MI, MJ et inversement proportionnelle à la distance DIJ qui sépare les lieux, élevée à une puissance petit a qui représente les difficultés de franchissement de cette distance. Nous avons donc une interprétation directe en géographie de ce modèle, puisque pouvoir faire varier l'effet dissuasif de la distance suivant les types d'espaces géographiques, suivant les types de flux analysés, va nous apporter beaucoup d'informations pour travailler sur toutes les formes de mobilité et d'échange. Nous avons également une référence à ce produit des masses qui nous donne le nombre de toutes les interactions possibles entre un lieu émetteur et un ensemble de lieux émetteurs et un ensemble de lieux récepteurs. Et nous savons que Si ces interactions possibles étaient distribuées dans un espace homogène, eh bien, leur nombre varierait en fonction de la surface, comme le carré de la distance d'interaction. Donc, nous ne nous étonnons plus de trouver une distance au dénominateur de l'équation du modèle et sous forme d'une fonction puissance négative. Et donc, nous avons là réalisé une interprétation du modèle qui, j'espère, nous le fait mieux comprendre et qui établit un passage entre la représentation individuelle que l'on peut avoir spontanément de la propension à la mobilité ou aux échanges et son expression par des flux collectifs.